n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne.
Déjà ?
Quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac.
Ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite?
À la base, Saint-Jacques.
En pèlerinage?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Caméra Subjective, le magazine sur l'actualité du cinéma en direct sur Radio G. Un nouveau générique pour un nouveau rendez-vous qui, nous l'espérons, deviendra important pour vous. Nous vous retrouverons un mercredi sur deux à 19h. Et si vous êtes en retard, pas de problème, retrouvez-nous en podcast quand vous voulez sur le site de Radio G, www.radio-g.fr, à la page de l'émission. Alors je dis nous, car je ne suis pas seule derrière ce micro. Bonjour Anne-Lie.
Bonjour Margot.
Bonjour Véronique.
Bonjour Margot, bonjour Anne-Lie.
Anne-Lie, Véronique et moi Margot, nous serons trois cette année dans le studio pour interroger des invités, décortiquer les sorties de films, découvrir des métiers du cinéma, débattre de mise en scène, évoquer les événements ciné dans notre région et partager avec vous nos coups de cœur.
Alors au menu de l'émission de ce soir, pas d'hommage à Jean-Paul Belmondo, mais une chronique pour se souvenir d'un des géants de la comédie classique hollywoodienne. Quelques indices, Margot ?
En voici trois. Boulevard du Crépuscule, qui n'est pas une comédie, La Garçonnière ou 7 ans de réflexion. Quel réalisateur se cache derrière ces films ?
Eh bien, c'est une très bonne question. Si vous avez trouvé ou non, rendez-vous en fin d'émission.
Véronique nous présentera avant ça le festival Regards sur le cinéma européen qui aura lieu ces prochains jours dans notre département.
Et dans quelques minutes, nous accueillerons Cécile Reynard et Esteban Jiménez-Rena de Cinéma Parlant qui nous présenteront les ambassadeurs du cinéma. Si vous êtes jeune et dans la région, que vous aimez le cinéma et en parlez autour de vous, vous devriez rester à l'écoute, c'est pour vous.
Mais pour commencer, voici une petite surprise sonore concoctée par Anne-Lie.
Alors concoctée par Anne-Lie sous les ordres de Margot, c'est une plongée dans un film à partir d'extraits. Je ne vous dis pas duquel il s'agit, vous pouvez essayer de deviner et on en parlera plus en détail en fin d'émission.
Appel d'urgence, on se fait braquer les mecs!
Moi, un de mes potes m'a dit, tu dois surtout pas t'attacher à des choses dont tu pourrais pas te débarrasser en 30 secondes, montre en main si tu voyais les flics se ramener dans le coin. Je fais ce que je sais faire. Je monte des coups, tu fais ce que tu sais faire, t'essaies d'arrêter les mecs comme moi. Et si tu dois me filer constamment, s'il faut que tu bouges et que je bouge le petit doigt, comment t'espères sauver ton mariage?
Ouais, là tu marques un point.
Le pont Saint-Vincent-Thomas, notre issue de secours numéro 1. Issue numéro 2, de ce côté vers Anaheim jusqu'à la 110.
Bon.
Pigez ?
Et qu'est-ce qu'ils ont dans le cigare ?
Précisément ce qu'on essaie de deviner.
Pensez à votre famille, ne risquez pas votre vie, n'essayez pas de jouer les héros.
C'est des pros ces salauds-là.
Mais il y a le revers de la médaille comme toujours.
On débute en tension, mais pour commencer, avant de vous dire de quel film il est question, on va recevoir nos premiers invités et nous avons fait le choix de parler d'un dispositif qui permet de découvrir les films en salle, les ambassadeurs du cinéma. Nous sommes avec Cécile Reynard, bonsoir.
Bonsoir.
Et avec Esteban Jiménez-Rena, bonsoir.
Bonsoir.
Et tous les deux, vous accompagnez ce dispositif de cinéma parlant. Cinéma parlant en quelques mots, mais vous pouvez compléter, c'est une association d'éducation à l'image et au cinéma. Vous organisez des événements publics, des projets pédagogiques, toujours avec l'envie de favoriser la découverte des films et d'aiguiser son regard. Ça va, on...
Absolument.
En bref résumé.
C'est tout à fait ça.
Alors, vous vous apprêtez à ouvrir la 7e saison des Ambassadeurs du cinéma, qui s'adresse aux lycéens, aux étudiants, avec comme principe les jeunes parlent aux jeunes, pour mettre en avant le cinéma d'art et d'essai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail le principe des Ambassadeurs du cinéma ?
Ouais. Alors, le principe des Ambassadeurs, donc c'est la 7e édition, ça a été lancé en 2015. Et en fait, on va dans les lycées et dans les établissements supérieurs, donc les facs et les écoles, et on essaye de trouver un ambassadeur ou une ambassadrice, pardon, par établissement. Et en fait, le but, c'est d'essayer d'en faire de cette personne un relais entre le cinéma d'art et d'essai et son établissement. Et donc, ça va passer par différents médiums, les flyers, la communication sur les réseaux sociaux, sur Insta. Donc, voilà, c'est assez varié. Et l'idée, c'est vraiment d'amener un jeune public, on va dire 15-25 ans pour être large, vers un cinéma vers lequel il ne se serait pas dirigé normalement. Un cinéma plus exigeant et différent.
Donc voilà. Des films, ouais, pas forcément, pas que des blockbusters, quoi.
Non, pas que, mais il peut. Par exemple, Dune, ça serait un super film à aller voir avec les ambassadeurs et les ambassadrices, par exemple.
Donc là, on entend que c'est un relais de communication. Donc on attend cette transmission des ambassadeurs et ambassadrices, mais ils ont aussi une super chance, c'est de pouvoir aller voir des films à un tout petit prix. Je crois que c'est 2,50€ la séance.
Ouais, c'est ça. En fait, en devenant ambassadeur ou ambassadrice du cinéma, ils bénéficient d'un tarif de 2,50€ au cinéma les 400 coups toute l'année, ainsi que d'invitations au festival Premier Plan, de soirées à des avant-premières, de rencontres avec les réalisateurs et réalisatrices. Donc voilà, il y a tout un système, on va dire, de moyens mis à bord pour qu'ils aient accès le plus largement possible à la culture et par différents moyens et différentes activités.
Ouais, plein de rendez-vous tout au long de l'année. Comment est né ce projet-là, pour répondre à quel besoin après cette saison, Cécile ?
Oui, alors en fait, ça part d'un constat que les cinémas, de manière générale, voient leur public plutôt vieillir. Il y a eu plusieurs enquêtes là-dessus. On a voulu essayer de réagir. En fait, cette initiative a été lancée par un autre cinéma d'art et d'essai qui est à Saint-Étienne. Et dont on s'est inspiré pour créer ce dispositif, ce réseau des ambassadeurs. Donc c'est comme ça, voilà, qu'est venue cette idée.
Et alors, quels sont les retours ? Est-ce que vous avez remarqué justement plus de jeunes aux séances ? Comment ça se traduit ?
Alors c'est vrai que c'est assez difficile finalement pour nous de mesurer combien les ambassadeurs arrivent à mobiliser d'autres jeunes qui sont leurs pairs à venir au cinéma. Mais les effets qu'on peut constater de manière assez certaine, parce qu'en fin d'année, on leur demande de nous faire un retour d'expérience, c'est que ça bénéficie déjà principalement à eux. Et eux-mêmes sont déjà des jeunes qui sont à la base quand même déjà sensibilisés au cinéma, mais qui disent bien qu'à travers ce réseau, ils sont allés voir des films qu'ils ne seraient pas forcément allés voir d'eux-mêmes en salle. Ils ont partagé l'expérience collective aussi, ils ont partagé leur cinéphilie, et ça compte beaucoup parce que en fait certains se trouvent un peu isolés en tant que passionnés du cinéma, parfois auprès de leurs amis, et donc retrouver d'autres jeunes qui partagent cette passion, c'est aussi un effet très positif pour eux. Et à travers en fait aussi les rencontres qu'ils peuvent avoir justement avec des réalisateurs ou d'autres personnes qui sont amenées à leur parler du cinéma, ils apprennent aussi des choses sur la fabrication des films. Ça, c'est vraiment des effets qu'on peut constater.
Et du coup, Cécile ou Esteban, est-ce que vous pourriez un peu nous préciser, nous détailler ces rencontres, qu'est-ce qui est prévu cette année ou qu'est-ce qui a été fait dans les années précédentes ?
Oui, alors, bon, si tout va bien, hein, bien sûr, cette année encore. On a, par exemple, un temps assez privilégié que je trouve plutôt assez sympathique pour eux, qui est un petit déjeuner avec les réalisateurs de notre sélection Film d'ici, par exemple. Donc, Film d'ici, c'est un programme de courts-métrages régionaux que l'association Cinéma Parlant propose à l'occasion du festival Premier Plan. Les réalisateurs sont invités, ils rencontrent le public dans la soirée, dans la salle de cinéma. Mais c'est vrai que c'est une grande salle, donc certains peuvent poser des questions à cette occasion-là. Mais s'ils veulent des précisions sur des choses ou bien avoir des questions un peu plus poussées, un peu plus personnelles, on propose donc seulement aux ambassadeurs de venir prendre un petit déjeuner avec eux le lendemain matin. Et là, ils sont une dizaine autour de la table face à 3 ou 4 réalisateurs. Et il y a un échange beaucoup plus riche qui se met en place à ce moment-là.
C'est vrai que ça, c'est vraiment extraordinaire comme expérience quand on est intéressé par le cinéma. Et il me semble aussi qu'en début d'année, vous proposez une sorte de formation, parce que ce n'est pas forcément si simple de parler de cinéma, de...
Oui, effectivement. Alors, tout au long de leur année d'ambassadeur, nous, on les accompagne à être ce relais qu'on leur demande d'être, parce que les ambassadeurs peuvent venir d'horizons très divers et puis être plus ou moins passionnés de cinéma, avoir plus ou moins de connaissances. Et nous, on est très contents aussi de cette hétérogénéité et de cette richesse que ça apporte. Donc en fait, on va leur proposer des petits modules dans l'année pour, par exemple, apprendre un petit peu le vocabulaire du cinéma, le langage cinématographique. On va leur proposer aussi de s'essayer à l'exercice de la critique de films. Selon leurs envies aussi, on peut leur proposer de s'essayer à la réalisation, pourquoi pas. Enfin voilà, on s'adapte aussi en fonction des éventuelles demandes qu'on sent émerger de la part des jeunes.
D'accord, donc ça c'est ton travail, j'imagine, Esteban, d'être à l'écoute.
C'est ça. En fait, moi, je vais pas du tout être une figure hiérarchique ou quoi que ce soit, c'est juste je vais essayer de fédérer ce petit groupe d'ambassadeurs, d'ambassadrices. Et puis avec eux, on va essayer de voir... je vais d'abord leur demander en fait qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et de voir aussi, parce qu'il y aura les mercredis ciné. Donc tous les mercredis soirs, on ira ensemble voir la sortie du moment au cinéma. Et donc ouais, le but c'est de se créer un petit moment à soi et qu'on regroupe tous nos envies et qu'on essaye de les mettre en œuvre.
Ce qu'il faut comprendre, c'est pas donc des individus lâchés au sein de leur université ou lycée qui disent « Ah, moi j'ai vu tel film ». C'est aussi vraiment un collectif ensemble qui se retrouve pour parler des films.
Oui, c'est ça. Le but, c'est vraiment de fédérer et de créer un petit noyau dur autour de ça. Et puis de se faire rencontrer des gens qui partagent la même passion, parce que c'est toujours sympa de rencontrer telle personne qui aime tel cinéaste et puis d'en discuter autour d'un verre, quoi.
De débattre, de se battre.
Exactement.
C'est ça. Et puis en début d'année, on leur propose aussi de se présenter à travers peut-être leur film préféré ou en tout cas un film qui les a marqués. Et souvent, par exemple, c'est un moment où ils s'échangent des films à voir. En fait, ça leur donne plein d'envie de films pareils vers lesquels ils ne seraient pas nécessairement allés si quelqu'un n'avait pas été là pour leur en parler, en fait.
Donc il y a aussi de la transmission au sein du groupe.
Entre eux, ouais.
Donc on sent qu'il y a une idée à la fois de cohésion, de collectif dans ce groupe. Mais ce que je trouve aussi assez intéressant dans votre façon d'organiser ce projet, c'est qu'il y a un petit peu l'idée de faire vivre l'écosystème très riche et très dynamique en Anjou du cinéma. Parce que c'est vous, Cinéma Parlant, qui portez ce projet en association avec une salle RSC, avec des festivals, Cinéma d'Afrique, Premier Plan. Donc c'est aussi... peut-être introduire ces jeunes à la richesse du cinéma dans le 49.
Oui, absolument. Ça leur permet de découvrir aussi effectivement des grands événements comme les festivals. Quand on est étudiant, par exemple, sur Angers et qu'on vient d'arriver dans la ville, on n'a pas nécessairement connaissance de tout ça. Au début, il y a toujours quelqu'un qui nous amène à ça, finalement. C'est assez rare de le découvrir par soi-même. Donc là, effectivement, c'est notre rôle aussi de les ouvrir à ça ou en tout cas d'essayer d'apporter quelque chose en plus par rapport à leur culture existante.
Alors, on est ambassadeur ou ambassadrice du cinéma pour une saison universitaire. Il faut candidater. On trouve d'ailleurs le formulaire en ligne en ce moment, car on peut candidater jusqu'au 26 septembre.
C'est ça.
Quels sont les critères de sélection? Comment vous sélectionnez cette équipe? Est-ce qu'il faut déjà être cinéphile, par exemple
ou... Bah, c'est le premier critère, hein. Peut-être de base, aimer le cinéma, ou pas forcément être cinéphile, mais avoir une appétence pour découvrir des films, je pense. Mmh. La curiosité. Et en fait, il n'y a pas vraiment de critères ou de prérequis à avoir. C'est des questions assez simples, en fait, sur les goûts, leurs habitudes, leurs motivations... est-ce qu'ils ont envie d'aller au cinéma? Enfin, beaucoup de fois, vu qu'on va y aller une fois par semaine déjà. Ça demande aussi un investissement au niveau de la distribution de flyers, par exemple, ou la communication. Donc, on va vraiment voir quelles personnes sont les plus motivées pour cette mission, parce que c'est vraiment un investissement, en fait. C'est une activité à part en soi, un peu comme un club de sport, quoi.
Donc, club de cinéma.
Exactement.
Donc, surtout de l'envie. Envie ouais. de voir des films, envie de les partager.
Un goût pour la communication et...
Ouais, et puis aussi, oui, partager en fait, surtout ses goûts. Ça, c'est aussi hyper important.
Et combien d'ambassadeurs et d'ambassadrices vous retenez ensuite dans l'équipe?
Alors, ça varie un peu parce qu'on en retient un ou une par établissement. Donc, ça fait une cinquantaine d'ambassadeurs, ambassadrices à peu près, sur tout Angers.
Ouais, on peut remplir une salle
ouais.
avec tout ce monde.
Donc oui, ça concerne Angers et son agglomération, c'est ça pour l'instant.
Donc les critères, c'est l'envie et être dans la région.
Exactement.
Okay. On mettra un lien vers ce formulaire si vous avez envie de rejoindre cette équipe. Margot, quelles sont tes autres questions?
Mais
à
non,
toi
mais moi je m'interrogeais plus largement sur les actualités de cinéma parlant. Il me semble que vous faites prochainement une présentation de votre saison. C'est lundi soir prochain.
Oui, c'est ça. Lundi, 20 septembre à 20h15, on donne rendez-vous au cinéma Les 400 Coups pour faire une présentation globale de la saison cinéma. Alors, ce ne sera pas que la nôtre. En plus, on essaye de mettre en avant aussi les programmations des autres associations angevines de cinéma. Et puis, suite à cette présentation de saison, la découverte d'un film en avant-première qui est La Voix d'Aïda. Et la soirée sera animée par Louis Mathieu, président de Cinéma Parlant.
J'allais dire Louis Mathieu qu'on ne présente plus quand on aime le cinéma. Mais effectivement. Donc ça va être à la fois les dates des semaines du cinéma espagnol, allemand, italien, anglais.
Exactement, on donne les dates de tous nos rendez-vous de l'année et puis aussi les programmations thématiques qui existent. Il y a plusieurs rendez-vous comme ça tout au long de la saison, comme les soirées ciné classiques qui présentent à chaque fois un film du répertoire, ou pour le jeune public aussi les séances ciné goûtées. Enfin voilà, tous ces rendez-vous qui sont maintenant assez installés, mais il y a aussi quelques petites nouveautés que je vous laisserai découvrir lundi prochain.
Donc rendez-vous lundi 20 à
20h15
au cinéma Les 400 coups.
C'est ça.
Génial. Et toutes les actus, bien évidemment, sur le site de Cinéma Parlant. On peut suivre aussi toutes les recommandations des ambassadeurs du cinéma. Merci beaucoup, Cécile et Esteban. Le temps défile à toute vitesse. Donc je rappelle que vous animez tous les deux ce réseau et qu'on peut candidater pour vous rejoindre jusqu'au 26 septembre. Il suffit d'être lycéen, étudiant dans la région. Le formulaire est très chouette à remplir. Merci encore.
Eh bien, merci aussi à vous de votre invitation. Merci beaucoup.
C'était nos premiers invités. Et on va poursuivre cette première édition de Caméra Subjective avec un titre. C'est un clin d'œil à l'une des bandes originales que vous entendez dans notre générique, tiré du film de Annette de Léos Carax. Et comme il est chanté dans ce titre par Marion Cotillard et Adam Driver, She's out of this world. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio G dans l'émission Caméra Subjective et nous plongeons maintenant avec Véronique dans l'agenda cinéma, le rendez-vous des événements ciné dans la région.
Savez-vous que 6 cinémas associatifs des bords de Loire se fédèrent depuis 2009 pour proposer chaque année un festival mettant à l'honneur l'actualité du cinéma européen ? Habituellement organisée en mars, la 12e édition de Regards sur le cinéma européen aura finalement lieu du 23 septembre au 3 octobre prochain dans ses 6 communes. Chalonne-sur-Loire, Ingrande, La Pommeraye, La Poissonnière, Saint-Georges-sur-Loire et Saint-Martin-du-Fouilloux. Ce festival est organisé par une équipe d'une vingtaine de bénévoles, cinéphiles et passionnés, déjà engagés dans les cinémas des villages à l'année. J'ai rencontré René Chevrolier, le président du festival, mais aussi du cinéma grand écran à La Pommeraye. Il m'a expliqué que Regards sur le cinéma européen est né en rebond des élections européennes de 2008. Il a trouvé qu'on parlait trop peu de culture dans les débats. En se demandant ce qu'il pouvait faire à son échelle, l'idée de montrer des films européens de manière événementielle a germé, afin d'enrichir la programmation des petits cinémas de village, qui ne montrent finalement que très peu de films européens en VO. L'enjeu fondateur de Regards sur le cinéma européen est donc d'amener le cinéma européen au plus près des gens. En 2009, 9 films étaient présentés dans 4 salles. Depuis, ce festival a fait son chemin, puisque cette année, 23 longs-métrages récents sont mis à l'honneur. Autant dire qu'en cette période, certains d'entre eux sont passés sous les radars et qu'ils sont de belles découvertes. Cette année, les films viennent de 13 pays européens différents. Les genres des films sont variés, de la comédie au drame, en passant par 2 biopics et un thriller. Et cerise sur le gâteau, tels les héritiers des cinémas d'antan, ils proposent à chaque début de séance un court-métrage extra court. Parmi les films de cette édition, voici les 2 coups de cœur de René, le président du festival. Ondine, du réalisateur allemand Christian Petzold, un drame réaliste et onirique, inspiré du mythe d'Ondine, à voir les 24 et 27 septembre à Saint-Martin-du-Fouilloux et le 2 octobre à la Pommeraye. Pour l'éternité, du réalisateur suédois Roy Andersson. Ce drame fantastique est en salle le 26 septembre à Saint-Georges et à Chalonne-sur-Loire. Pour ma part, je vous propose un focus sur Digger, qui sera diffusé le 29 septembre à Ingrande. Retenez cette date, c'est aussi celle de notre prochaine émission.
Πες και στη διοίκηση και στην εταιρεία και σε όλους ότι το κτήμα αυτό δεν πρόκειται να το πάρουνε. Ούτε και όταν πεθάνω θα το πάρουνε.
Où sommes-nous? Quelle langue entend-on? Nous sommes quelque part au nord de la Grèce, à la frontière de la Macédoine avec Nikita, la soixantaine, qui a toujours vécu sur son bout de terrain au cœur de la forêt. Il est en lutte depuis des années contre une compagnie minière qui convoite sa propriété, mais il tient bon. Le coup de grâce tombe avec le retour de Johnny, son fils qui, après 20 ans d'absence et de silence, vient lui réclamer sa part d'héritage. Nikita a désormais deux adversaires, dont un qu'il ne connaît plus, mais qui lui est très cher. Digger est le premier long-métrage de Georgis Grigorakis. Georgis est donc un grec, et il a étudié la psychologie sociale, puis le cinéma à Londres. Digger signifie « pelleteuse » en anglais. C'est un film qui met en scène l'éternelle histoire de David contre Goliath, l'homme des bois, qui vit de ses récoltes contre une puissante compagnie minière qui ravage la région. Si le film traite d'environnement, sujet plus que sensible de nos jours, il parle aussi de l'affrontement d'un père et d'un fils qui ne se sont pas vus depuis 20 ans. On se retrouve loin des clichés de la Grèce touristique, au cœur d'une forêt pluvieuse et automnale, dans une ambiance de, et je cite le réalisateur, néo-western sans héros, où deux cavaliers, l'un à cheval, l'autre à moto, creusent la terre à la recherche de quelque chose perdu depuis longtemps, les fondations d'une possible vie commune. Alors, le 29 septembre à Ingrande, c'est votre séance de rattrapage pour venir découvrir ce film qui s'est distingué au Festival Premier Plan à Angers en recevant le prix des activités sociales de l'énergie. À bientôt à Regard sur le cinéma européen qui se déroule donc du 23 septembre au 3 octobre à Chalonne, Ingrande, La Pommeraye, La Poissonnière, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Martin-du-Fouillou. Retrouvez toutes les informations sur le site www.regard.com. cinéma-européen.org.
Et Regard prend un S. Merci Véronique, beaucoup de beaux films en perspective. Les riverains de Chalonne, Ingrande, et je ne me souviens plus de toutes les villes, sont chanceux. Alors est-ce que vous vous souvenez que nous avons écouté une bande-annonce un peu mystérieuse en début d'émission? Eh bien il est temps d'en savoir plus sur le film. Anne-Lie, nous sommes toutes oui.
Alors le film que j'ai choisi pour cette chronique en deux temps et que vous avez peut-être reconnu est Heat, réalisé par Michael Mann et sorti en 1995. On y retrouve Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer et Tom Sizemore. Et oui, c'est un classique du cinéma nord-américain et des films de braquage. Le pitch tient en deux mots. À Los Angeles, le lieutenant Vincent Hanna traque la bande ultra-professionnelle de Neil McCauley. J'ai peu de temps pour vous parler de ce film, alors on va faire étape dans quelques points notables. Heat, c'est un film de braquage, c'est le film de braquage qui a mis tout le monde d'accord avec sa scène de fusillade, qui semble-t-il est mythique. Personnellement, j'ai un peu eu l'impression qu'elle durait 20 minutes, tout en étant étonnée que notre contre-héros ne soit pas criblé de balles en 2 secondes, mais le reste du monde la regarde avec un sentiment de réalisme absolu. Ce qui est vrai est normal. Tous les acteurs ont été entraînés par des formateurs militaires au maniement des armes, à tel point que c'est désormais cette scène qui est montrée en exemple dans les formations policières états-uniennes, comme sur l'intitulé « Comment se replier sous un tir nourri ». Michael Mann a également positionné des dizaines de micros partout pour ne pas avoir à redoubler cette scène. Si elle est connue pour son réalisme, c'est surtout et aussi qu'elle prend le temps de nous montrer l'équipe de braquage, la police qui approche, les passants qui ne se doutent de rien. On sait où se situe chaque personnage à tous les instants. Prendre le temps, voilà qui nous mène à une nouvelle caractéristique de Heat. Sachez que ce film dure 3 heures, mais qui passe toute seule, tant la mise en scène et la technique sont bien menées. Plus que la partie braquage, fusillade et film d'action, ce qui me frappe quand je pense au film, c'est la contemplation. On peut l'entendre dans la bande originale, que je trouve superbe, et le film a été tourné sur des lieux réels, et c'est très beau de profiter de plans larges hors studio. Tout le film alterne avec une grande tension narrative et une contemplation du temps et de l'espace. Il y a ainsi beaucoup de place pour le silence, des temps morts qui sont loin d'être vides, et des discussions, beaucoup de conversations. C'est finalement un film très introspectif pour une course-poursuite impossible. À sa sortie, le film était annoncé comme le premier face-à-face au cinéma de deux immenses pointures, Al Pacino et Robert De Niro. Et pourtant, tout au long du film, ils ne font que se croiser, se chercher, s'observer. Heat nous emmène sur un jeu de pistes, parfois fausses, sans qu'on sache tout à fait qui domine la course-poursuite. On voit les équipes, flics ou braqueurs, qui observent ou écoutent leur adversaire. Toute la première partie du film est construite sur des regards indirects, parfois créés uniquement par la mise en scène et le montage. Une autre scène clé est celle du restaurant, où le lieutenant invite sa cible avec un tout simple « je te paye un café ». C'est alors le face-à-face tant attendu par tous les spectateurs, qui se révèle un simple champ contre champ, une mise en scène minimale, où le décor s'efface peu à peu. Et c'est d'ailleurs au montage que Michael Mann a mis de côté le plan large, qui n'avait pas de sens dans sa mise en scène. Ces deux ennemis sont toujours opposés et ne peuvent être représentés côte à côte. Dans cette scène, le jeu des acteurs est particulièrement sobre et on voit alors comment ces deux personnages sont le miroir l'un de l'autre. Ils partagent un même travail impossible qui ruine leur vie de famille, une même éthique professionnelle du travail parfaitement exécuté et un même refus d'abandonner et d'apparaître comme le plus faible. Enfin, une dernière chose qui me semble le central dans Heat, c'est comment tout bascule toujours parce que l'un ou l'autre de personnages est incapable de dire « Ok, j'arrête, je lâche l'affaire, c'est pas si important, j'ai envie de vivre ». Comme souvent dans les films d'action, on ne peut pas faire l'impasse sur la vengeance et ce désir absolu d'avoir le dernier mot. Alors j'ai adoré ce film, mais je me dis « Si seulement un tel avait su nommer et gérer ses émotions. Quel dommage, tant de morts en moins, tant de fins heureuses qui n'ont pas lieu pour une question d'ego surdimensionné. Je pense que c'est beaucoup de films hollywoodiens, on les aime quand même, mais c'est le ressort scénaristique. D'ailleurs, le premier accroc dans le braquage initial vient d'un homme qui ne sait pas garder son sang-froid et se sent menacé par un employé hagard et blessé, complètement inoffensif. Le flic est aussi assez détestable, il est toujours très autoritaire, notamment dans ses interrogatoires, mais peut-être est-ce un écho au scénario initial où ce personnage était accro à la cocaïne. Je ne vous parle pas ici des seulement 4 personnages féminins, 5 si on compte l'adolescente, qui sont les seuls à être en dehors de cette chasse, de ce monde violent. Elles ont leur importance, mais toujours en étant femmes d'eux, filles d'eux, et sans être suffisantes pour que leurs hommes n'aillent pas vers leur issue fatale. Alors je vous l'ai dit, moi cette BO, je l'aime beaucoup, elle est très contemplative. Je vous invite à l'écouter, à regarder ce film en version originale. Je vous rappelle qu'on parlait de Heat, réalisé par Michael Mann et sorti en 1995. Le film a bénéficié d'une restauration 4K et est disponible en DVD, Blu-ray, VOD, médiathèque. C'est très facile à trouver. Maintenant que j'espère que tout le monde a envie de voir ou revoir Heat, on va découvrir la chronique cinéma de Margot.
Alors pour cette première chronique de cette nouvelle émission de cinéma, j'ai choisi de vous parler de Fin, F-I-N. Fermez les yeux et souvenez-vous. De part et d'autre de l'écran en noir et blanc, un couple nous fait face, assis dans une vedette qui fonce dans le soleil couchant. Le richissime Osgood vient de demander Daphné en mariage et celle-ci ne trouve pas d'argument assez convaincant pour refuser.
Osgood, je serai franche avec vous, nous ne pouvons pas nous marier du tout.
Pourquoi ?
Eh bien, Pour commencer, je ne suis pas une vraie blonde.
Pas d'importance.
Je fume. Je fume comme un sapeur.
Ça m'est égal.
Mon passé n'est pas bon. Je vis depuis 3 ans au moins avec un joueur de saxophone.
Je vous pardonne.
Ah. Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant.
Nous en adopterons.
Vous ne comprenez pas à ce goût.
Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait.
Vous l'aurez peut-être reconnu, c'était la séquence de fin du film Certains l'aiment chaud, chef-d'œuvre de la comédie hollywoodienne, écrit et réalisé par Billy Wilder. Avec dans les rôles principaux Marilyn Monroe et Jack Lemmon, qui dans cette dernière séquence ôtent la perruque qu'ils portaient pour se travestir en femme et échapper ainsi à la mafia. Le film date de 1959, il y a donc plus de 60 ans, et pourtant les cinéphiles du monde entier se souviennent de cette réplique finale
« Personne n'est parfait »,
qui est d'ailleurs gravée sur la pierre tombale de Billy Wilder. Car Wilder, en scénariste puis réalisateur génial, a toujours su soigner les dialogues de ses films, notamment ceux qui les concluent, comme le rappelle l'écrivain britannique Jonathan Coe, qui signe un fabuleux roman sur le maître, « Billy Wilder et moi », paru en avril 2021.
Et de quoi parle ce roman plus précisément ?
Le « et moi » du titre fait référence au personnage principal, Calista, la soixantaine, qui est une compositrice de musique de film un peu en panne, il faut bien le dire. Installée à Londres, ses projets peinent à aboutir après un début de carrière prometteur. Procédant par flashback récurrent, le film revient sur sa rencontre en 1977 dans un restaurant d'Hollywood avec une célébrité du cinéma américain de l'époque, Billy Wilder évidemment. Calista n'a pas 20 ans, elle ne connaît rien au cinéma, mais son interlocuteur prestigieux la prend pour cobaye et la bombarde de questions. Réalisateur sur le déclin, il veut comprendre ce que les jeunes se pressent pour voir sur grand écran. Et les ambassadeurs du cinéma n'existaient pas encore à cette époque. De ce dîner étonnant découle une invitation sur le tournage du nouveau film de Wilder, Fedora, qui doit se dérouler à l'été 1978 sur une île grecque. Ça tombe bien, parce que Calista est grec et va pouvoir servir d'interprète au réalisateur et à son équipe. De fil en aiguille, la jeune femme, et vous et moi avec elle, s'initie à l'envers du décor, c'est-à-dire aux aléas d'un tournage chaotique entre la Grèce, l'Allemagne et le Royaume-Uni, aux relations houleuses entre comédiens et réalisateurs, et aux doutes de l'équipe, à commencer par ceux du co-scénariste fidèle de Wilder.
Tu évoquais tout à l'heure l'idée de fin.
Oui, la force du roman de Jonathan Coe, c'est sa tonalité crépusculaire assumée. Toutes les pistes narratives du livre se rejoignent dans cette idée de fin. La fin d'une immense carrière, pour commencer, tant l'étrange Fedora peut se voir comme le chant du cygne d'un réalisateur hors du commun, dont la carrière a commencé dans les années 30 en Europe et a été couronnée de pas moins de 6 Oscars aux États-Unis. Le roman de Jonathan Coe, incroyablement documenté sur le parcours de Wilder en général et le tournage de Fedora en particulier, lui rend un hommage à la fois bouleversant et hilarant. Coe dépeint Wilder comme un vieux lion ayant perdu de sa superbe, dépassé par de fringants concurrents à la crinière ou la barbe bien fournie. Ces barbus désignent dans la bouche désabusée de Billy Wilder lui-même les réalisateurs du nouvel Hollywood. Ce sont les Spielberg, les Lucas ou les Coppola qui imposent dans les années 70 une nouvelle façon de raconter des histoires, à des années-lumière ou des galaxies très lointaines du cinéma raffiné de Billy Wilder. Par petites touches, Jonathan Coe brosse le constat de cette fin d'un monde, celui de l'âge d'or des grands studios d'Hollywood, sur lequel Wilder régnait en maître. Les financements de son avant-dernier film, Fedora, proviennent d'ailleurs d'Europe, d'Allemagne ironiquement, et non d'Hollywood. Il faut dire que la tonalité sombre du scénario de Fedora, à rebours des comédies qui ont fait le succès du réalisateur, peine à convaincre. Le film s'ouvre sur l'enterrement de son personnage principal, l'actrice Fedora, star déchue du cinéma. Non sans malice, Jonathan Coe fait résonner dans son livre le déclin de l'étoile Wilder avec celui de Fedora, adulé en son temps.
Tu parlais d'Allemagne.
Effectivement. Dans ses chapitres peut-être les plus émouvants, Billy Wilder et moi évoquent la fin d'une certaine innocence, celle de toute une génération qui a fui le nazisme. Samuel Wilder, dit Billy Wilder,
est né en 1906 en Pologne, dans une famille d'origine juive. Sa jeunesse est marquée par l'exil, Vienne, puis Paris, Londres et enfin Hollywood. Wilder sera hanté toute sa vie par le souvenir obsédant de sa mère disparue. Dans un chapitre déchirant, le roman le dépeint visionnant jusqu'à l'épuisement à la recherche d'un éventuel indice, les rushs des premiers journalistes qui ont filmé la libération des camps de concentration. C'est avec cette idée universelle de filiation tourmentée que s'ouvre et s'achève le roman. À travers le personnage de Calista, qui accompagne sa fille étudiante à l'occasion de son départ à l'étranger, Jonathan Coe tisse un parallèle entre progéniture et film. Les œuvres sont pour leurs créateurs comme des enfants pour leurs parents. Après des années à les couver, les maturer, les rêver, il faut savoir accepter la séparation. Pour Calista, la fin de cette maternité active se traduira par une renaissance inespérée. Pour Wilder, renoncer à son aura de réalisateur star sera plus amer.
Billy Wilder et moi, de Jonathan Coe, est traduit par Marguerite Capel et édité chez Gallimard.
Le film Fedora de Billy Wilder est disponible en VOD et en DVD dans une très belle version restaurée, éditée par Carlotta.
Merci beaucoup Margot pour ce conseil lecture dans cette émission cinéma. C'est la fin de cette émission et on arrive en retard à nos rendez-vous. On rend l'antenne presque à l'heure. C'était la première édition de Caméra Subjective. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez retrouver le podcast de ce soir à la page de l'émission sur le site de Radio G, www.radio-g.fr, une page grâce à laquelle vous pouvez même nous écrire ou nous envoyer des messages vocaux. Et oui, c'est possible. Vous pouvez aussi recevoir de nos nouvelles grâce à notre newsletter que nous nous apprêtons à fabriquer. On se retrouve dans 15 jours et nous parlerons entre autres du film documentaire I Am Greta. Des choses à ajouter ou ce sera une surprise ? Margot, je me tourne vers toi.
Ce sera très bien, surtout.
Ce sera surtout très bien. La semaine prochaine, le mercredi à 19h, c'est Bande Geek Mafia. Restez à l'écoute de Radio G, car dans une vingtaine de minutes, vous retrouverez Rudy's Back. Très bonne soirée, à dans 2 semaines.
Au revoir.
Au revoir.